Alors, voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander qui es-tu. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Donc on a... J'ai mis ce petit passage en intro parce que, à mon sens, il résume assez bien, finalement, le pharisien qui va toujours être en discussion avec la vérité, qui va toujours chercher, alors, qu'est-ce que la vérité, et essayer de vérifier, finalement. Voilà, c'est un petit peu, ce qui fait le charme du pharisien, quoi. Ils vont entendre parler de Jean-Baptiste, et puis ils vont dire, bon, bah, comment on peut intégrer ce gars-là qui se dit prophète, et dans quel cas on le met, quoi. Parce que, voilà, nous sommes des gens qui étudions, qui nous intéressons, voilà. Et puis on a à la fin de l'évangile, Judas qui avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens arrive à cet endroit avec des lanternes, des torches, des armes. Donc on voit que les pharisiens du coup ont à nouveau envoyé des personnes, mais non pas pour étudier une question, mais pour exécuter une sentence. Parce que ils estiment que Jésus est devenu dangereux pour la doctrine, pour le groupe, en fait. Voilà. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a un risque, semble-t-il. Il y a quelque chose qui a été faussé dans cette manière de rester un bon pharisien. Voilà. Alors, merci Nathalie qui m'a envoyé des clés. Parce que hypocrite, enfin, en grec, hypo, c'est en dessous, et kritai, c'est le dit de Dieu. Voilà, donc c'est... en dessous du dit de Dieu, de la parole, enfin du dit, de ce que Dieu nous dit.
Demande.
Ouais. Et après, on a aussi le verbe hypokrinein, qui signifie soumettre à une enquête, interroger. Et donc, quand Jésus traite les pharisiens d'hypocrites, il leur reproche de rester en dessous de leur mission de pharisiens, qui est de faire des interprétations justes de la Torah et de ses propres paroles, et donc de n'être pas assez pharisiens, de n'être pas assez ceux qui confrontent tout à la réalité pour pouvoir faire vivre la loi, en fait. Voilà. Donc, je dirais que de mon côté, là, je vais parler très brièvement des pharisiens, mais c'est pas vraiment l'objet, finalement. J'essaie vraiment de voir ce que Jésus se frotte autant aux pharisiens. Parce que on dit qu'il aime bien, châtie bien, donc c'était pas ses ennemis, les pharisiens, c'était d'abord... finalement, peut-être ceux qui, normalement, étaient les plus proches de lui, quelque part. Moi, c'est ce que je pense.
Il était pharisien.
Voilà, Jésus était pharisien. Et donc, c'est vrai que d'où vient le parti pharisien? Si on résume de manière très grossière, on pourrait dire peut-être que c'est suite à l'exil, c'est une partie du peuple juif, les plus instruits peut-être, qui se sont dit, il faut que nous puissions maintenir la doctrine juive, pour ne pas qu'il y ait une dispersion de cette doctrine et une dilution, et qui ont veillé jalousement sur la doctrine juive, en fait, si on doit faire un résumé un peu... Et qui, à l'époque de Jésus, continuait à transmettre cette doctrine, à enseigner, à faire en sorte de voir comment appliquer les commandements de la Torah et les conséquences des commandements de la Torah, parce qu'il y avait aussi les 613 commandements, enfin les 613 mitzvot.
Ça s'appelle les commandements.
Ouais, les commandements, voilà.
Non, c'est la façon d'appliquer les 10 paroles de vie.
Voilà. 613. C'est toute la loi juive dans le sens large.
Il y en a plein qui sont dans le Lévitique. Ouais. Mais on ne peut pas dire qu'au moment de Babylone, c'était la doctrine qu'ils voulaient garder, c'était simplement la parole.
La parole.
Là, parce qu'ils n'avaient pas encore le texte écrit à Babylone. Il y avait simplement le Lévitique, enfin toutes ces lois des prêtres qui étaient écrits pour le temple, etc. Mais pour le peuple, pour les gens, tout était oral. Mm. Donc ils ont voulu vraiment mettre par écrit, et c'est ça ce qu'il a fallu après enseigner aux gens. Parce que était-il encore capable de comprendre à l'époque? Donc les pharisiens, c'est ça, c'était les lettrés qui étaient capables de retenir les écrits et de les interpréter.
Mmh. Et de les enseigner.
Et les transmettre, les enseigner et de les interpréter.
Voilà. Donc,
c'est pas du tout des prêtres.
Donc la question, c'était pas des prêtres à la base, mais justement, en étudiant finalement ce que disent les évangiles sur les pharisiens, il m'a semblé, et je vais vous montrer pourquoi par la suite, en quoi le pharisien, pris isolément, désigne la dimension de prêtre que tout homme a en lui, puisque on est prêtre, prophète et roi, et que la capacité de prêtre a été dégradée par le péché, et donc l'homme et la femme, mais l'homme au sens large, est devenu incapable par lui-même d'exercer son rôle de prêtre, son rôle de, finalement, de... Enfin, on va dire un petit peu ce que c'est. Et il y a une restauration de ce rôle de prêtre avec le baptême, et Vatican II a redit « on est prêtre, prophète et roi par le baptême ». Mais je pense que quand on lit Vatican II, on peut être tenté de dire « ne sont prêtres que les gens du peuple de Dieu », donc les juifs et puis les chrétiens à leur suite. Alors qu'il me semble bien que le prêtre, c'est d'abord une capacité que le Seigneur a mise dans l'homme au départ. Voilà. Et le prêtre, c'est de manière imminente celui qui a reçu un sacrement spécial pour booster, exhaler son rôle de prêtre. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire la même chose qu'un homme tout court et qu'un baptisé encore plus. Il va le faire de manière beaucoup plus parfaite parce qu'il reçoit une grâce particulière, une présence du Christ particulière pour être prêtre. Voilà. Donc, à mon sens, le pharisien, ça représente ça et je vais m'en expliquer.
Oui, parce que les prêtres à l'époque de Jésus, c'était des sacrificateurs.
Tout à fait.
C'est tout. Oui.
Si on peut expliquer aussi le pourquoi un prêtre, par exemple, qu'il soit bon ou mauvais, ou dans un état de grâce ou pas, il célèbre la messe et puis ça, le Christ vient, c'est que le prêtre, c'est un peu comme celui qui est dans une salle des vannes et qui va avoir reçu de la main du Seigneur la compétence d'ouvrir la vanne de la grâce. Voilà. Et donc, quand on est prêtre de l'Église, on ouvre des vannes avec un réservoir immense de toutes les grâces de l'Église et on fait déferler les sacrements sur l'Église.
Ouais.
Quand on est chef de famille, on est dépositaire des grâces de la famille. C'est-à-dire que on a nos ancêtres depuis 1000 générations dont on détient les grâces et on a tendance finalement à, de manière un peu simpliste, à dire le prêtre, c'est pas moi quoi. Alors que c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et c'est pour ça que quand on bénit nos enfants, par exemple, on a bien toutes les grâces familiales qui viennent sur nos enfants parce que c'est à notre tour d'avoir en main les vannes de la grâce. Et dans les familles, effectivement, on a ceux qui vont avoir une capacité d'ouvrir la vanne plus fortement, d'avoir une plus grosse vanne de famille, peut-être. Dans le judaïsme, en tout cas, c'est dit comme ça, c'est l'aîné, c'est celui qui a reçu la bénédiction paternelle. Celui qui a reçu la bénédiction paternelle, c'est comme s'il avait reçu la clé de la salle des vannes, en fait.
Il a reçu
quelque chose de spécial pour pouvoir déchaîner les grâces familiales. Et c'est pour ça aussi que Ésaü, qui était... Normalement, c'était l'aîné.
Ouais.
Normalement, c'était l'aîné. Mais Ésaü, la tradition juive, dit que c'était quelqu'un de complètement perverti.
Ouais.
Et que finalement, Jacob était celui qui était fidèle à la grâce familiale. Voilà.
Ouais.
Là, je le dis avec mes mots, mais c'était celui qui étudiait, qui écoutait sa mère et qui entretenait un vrai lien avec sa mère. Et qui allait dans les assemblées, qui priait, qui étudiait la Torah, etc. Enfin, qui n'était pas forcément mise par écrit, mais qui... Voilà. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le prêtre. Et on est prêtre aussi pour les gens qui dépendent de nous, dans notre travail, dans notre environnement. Ça évite de faire une mauvaise interprétation, de dire, ben, vous les laïcs, vous êtes en train de vouloir voler aux prêtres leur rôle, alors que non, un prêtre, il a peut-être une vanne plus grosse dans les mains. Mais le Seigneur fait en sorte que la grâce se répande et que quand les personnes ne jouent pas leur rôle, le Seigneur va répartir l'eau qui a envie de couler quand même d'une manière différente. Voilà. Et donc, il y a des époques où le rôle de prêtre se répand. Et avant l'époque de Jésus, c'est ce qui s'est passé notamment avec les pharisiens qui, comme un certain nombre de prêtres, comme on le voit avec Anne et Caïphe, ne jouaient pas forcément leur rôle, les pharisiens se sont mis à recevoir de manière forte les grâces pour intercéder comme prêtres. Parce que c'est eux quand même qui avaient le mérite de lire la parole et de la transmettre.
Ouais.
Ils avaient ce mérite-là, et la plupart, enfin, je pense, ils le faisaient avec bonne volonté, avec foi, avec zèle, avec... voilà. Et donc c'est pour ça aussi que Jésus se frictionne avec eux dans les évangiles, c'est parce que finalement, c'est peut-être ceux qui arrivaient le mieux à le faire quand même, mais malgré les mauvais côtés pointés par l'évangile.
Bah, c'est surtout que... Quand tu as deux juifs ensemble, ils discutent, ils se posent des questions et ils ne sont jamais d'accord. Donc Jésus discutait comme ça avec tout le monde, mais surtout avec les pharisiens qui avaient le même enseignement que lui. Les pharisiens, à part ceux qui étaient proches des grands prêtres politiques, les pharisiens aimaient ces jours oratoires. Ils aimaient beaucoup. Mmh. Ça faisait partie de leur quotidien. Mmh. C'est une façon de continuer l'étude. De même que nous, on discute comme ça. Mais ce que tu dis effectivement, du père de famille, ça a toujours existé dans le judaïsme. Mmh. Ça vient d'Abraham. Mmh. Ça vient d'Abraham. Et chaque père de famille, encore aujourd'hui, quand il fait Shabbat le soir chez lui, il est le prêtre. Et il bénit sa femme et ses enfants. Mmh. Oh, il bénit le pain, il bénit le vin, mais c'est incroyable.
Tout à fait. Et donc finalement, Ésaü, on pourrait imaginer que s'il avait reçu la bénédiction paternelle, il aurait maintenu la vanne fermée. Parce que quand on ne s'appuie pas sur le Seigneur, c'est comme si on disait, bon bah la grâce, ils n'en ont pas besoin. Regardez, chasser, ça suffit. Courir les filles et être le plus fort, le plus violent, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de Dieu, quoi. Et Dieu, donc du coup, a fait... Enfin, il a fait Jacob. Voilà.
Ouais. Et surtout, quand il y a eu cette rencontre juste avant le Yabok, là, Dieu a bien confirmé que c'était ce qu'il voulait. Il voulait la bénédiction de Jacob avant qu'il retourne en terre promise. Ce sont les études des deux dernières semaines, si ça vous intéresse. Ce qu'on appelle la paracha, la partie de qu'on doit lire et qu'on doit étudier chez les juifs. Et si vous avez des sites, si vous tombez sur des sites, vous pouvez trouver les explications. C'est assez intéressant.
Donc toujours dans l'intro, je vais rappeler les quelques rôles des prêtres d'après l'Ancien Testament. J'avais fait une conférence d'une heure et demie sur ce que c'est que d'être prêtre pour un laïc aujourd'hui. C'était il y a quelques mois. J'étais étonné de voir à quel point la principale clé d'interprétation de ces textes, c'est ces rôles-là.
Si je résume,
qu'on va retrouver le premier point, c'est l'enseignement. Le prêtre, il lance. Alors le prêtre, je le dis au sens large, hein, c'est-à-dire la capacité d'intercesseur pour l'entourage. Que chaque homme a en lui, c'est ça que quand je dis prêtre, d'accord. Voilà. Donc l'enseignement dans Ézéchiel 44-23, en fait il y a deux textes à mon avis, enfin il y a plein de textes qui disent ce que c'est que d'être prêtre, mais il y a deux textes un peu majeurs. Il y a la bénédiction de Lévi qui est un des douze patriarches et qui lui était l'ancêtre des familles sacerdotales, quoi. Lévi, Deutéronome 33-10 et suivant. Et il y a aussi Ézéchiel 44, 23, ces versets-là, où Ézéchiel cite aussi un certain nombre de choses qui concernent les prêtres, parce qu'il est question de la restauration des prêtres. C'est les prêtres qui n'ont pas été fidèles à leur sacerdoce dans les moments plus difficiles, notamment avec l'épisode de Balaam, etc. Et où Ézéchiel dit, de la part du Seigneur, c'est Sadoc, du coup, qui va récupérer, toute la famille des prêtres de Sadoc, qui vont récupérer la descendance, alors qu'ils ne sont pas descendants de Lévi. Et donc, dans Ézéchiel, l'enseignement est cité en premier dans les rôles des prêtres, et il est dit « Ils enseigneront à mon peuple la distinction du sacré et du profane, et ils lui feront connaître la distinction du pur et de l'impur. » Donc, le prêtre, ou on va dire la base pour un enseignant, c'est d'apprendre à ses élèves, si on élargit un peu, parce qu'un enseignant, un peu comme un prêtre, va enfanter les gens qu'il a sous sa responsabilité, il va les enfanter à la vérité, il va les enfanter à l'amour, il va jouer un rôle de prêtre en fait, comme s'il il intercédait de la part du Seigneur pour les faire devenir comme lui finalement, pour les faire grandir. Ils enseigneront à mon peuple la distinction du sacré et du profane et lui feront connaître la distinction du pur et de l'impur. C'est le cœur du rôle du prêtre. Deuxièmement, ils offrent des sacrifices matin et soir. Donc l'encens, ils présentent le parfum aux narines du Seigneur. Et le grand prêtre, donc, qui préside à l'expiation comme médiateur suprême pour le pardon des péchés de son peuple, voilà. C'est celui qui va dire, bah voilà, Seigneur, mon peuple t'oublie, mais toi, tu pardonnes. Et il va faire descendre le pardon du Seigneur, en fait, parce qu'il va demander. Voilà. Le père de famille, en faisant ça.
Une fois par an.
Oui, une fois par an, mais dans les faits, là, c'est le grand prêtre, mais dans les faits, en fait, on voit que Job offre des sacrifices réguliers pour ses fils, parce qu'il dit « Seigneur, pardonne-leur ». Il y a plein d'endroits où on voit que quelqu'un joue son rôle de prêtre, n'étant pas forcément prêtre au sens où nous on l'entend, et va attirer le pardon du Seigneur sur les gens dont il a la responsabilité. Daniel, qui est l'adjoint du roi de Perse, il y a l'armée adverse qui déferle, les Assyriens je crois, et si je dis pas de bêtises, il arrive à détourner la colère du Seigneur parce qu'en fait, comme il partage l'autorité du roi de Perse, il va s'humilier devant le Seigneur. Il déchire ses vêtements, il se met dans la cendre. Il dit cette prière et l'armée ennemie s'en va. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait, mis sa main pour détourner la colère du Seigneur, du peuple dont il avait la charge de manière déléguée avec le roi de Perse. Quoi. Voilà, c'est très beau parce que...
Toi, il n'est pas prêtre proprement parlé, mais il reçoit cette mission en fait.
Ouais, de par sa responsabilité, il dit, bah voilà, je vais galvaniser peut-être les bonnes volontés du peuple, toutes les prières du peuple, toute la souffrance. Enfin, il va, comme si tout ce qui se passait dans le peuple, les bonnes choses en tout cas, c'était un réservoir, et qu'il avait la vanne du peuple pour pouvoir dire au Seigneur, voilà ce que je fais, des bonnes choses du peuple, et les mauvaises choses, pardonne-les, puisque c'est comme si sa voix comptait multiple par rapport à la voix d'un bonhomme du peuple qui vote. C'est
un peu ça. Parce qu'il était prophète.
Il était prophète et donc il a pu interpréter ce que le Seigneur lui demandait. Mais c'est en tant que prêtre qu'il a fait corps avec le peuple en parlant comme si c'était lui qui avait péché, finalement. Ouais. Troisième chose, les prêtres ont soin de la menorah. Le chandelier est synonyme de la loi, c'est-à-dire la lumière qui vient éclairer tout homme. Et donc, il faut maintenir cette lumière, il faut maintenir le feu de l'autel, qui n'est pas de feu étranger. Il va être celui qui fait en sorte de maintenir cette loi, la manière d'interpréter la parole, etc., de la manière de... Puis il va réconforter le peuple, il va sonner les trompettes en temps de combat, parce qu'il va être celui qui fortifie, parce qu'il maintient une unité de la foi, quoi. Voilà. Il va être celui qui bénit. Il bénit le peuple, il les exauce, comme dans Nombre 6, qu'on lit le premier jour de l'année. Point suivant, il était l'homme du sanctuaire. L'homme du sanctuaire, c'est-à-dire que c'est celui qui habite dans l'endroit sacré par excellence et qui fait en sorte de maintenir cet endroit sacré et qui fait en sorte d'accoutumer les gens qui rentrent avec le côté sacré. Comme le prêtre Eli, E-L-I, qui vient demander à la femme « Pourquoi tu... Si t'es sous, va-t'en, en fait. » Parce qu'il avait l'impression qu'elle était ivre, c'est la mère de Samuel. Finalement, il y a le souci du fait que le sanctuaire reste un lieu de prière et reste en même temps convivial. Enfin, voilà. J'extrapole peut-être un peu, mais... Il était chargé des purifications, donc on venait le voir pour les cas de lèpre qui sont décrits dans Lévitique 12 et 13. J'ai une maladie, qu'en penses-tu ? Donc le prêtre, il vient pour les problèmes, les bobos des uns et des autres. Voilà. Et un laïc aujourd'hui, à qui quelqu'un parle, les gens savent peut-être qu'on est chrétien, et donc on va intercéder pour eux d'une certaine manière, parce qu'on va dire « Seigneur, je te confie un tel, je ne peux pas porter tout ce que la personne m'a dit. » quoi. Voilà. Et le Seigneur va pardonner un petit peu, parce qu'on porte un petit peu de ce pardon du Seigneur, voilà. Et le pardon se fait d'une manière plus parfaite à travers le sacrement de réconciliation, bien sûr, mais bah, les parents vont aider les enfants à discerner sur leurs bobos, leurs difficultés, ce qu'a dit un prof, etc. Voilà, c'est le rôle de prêtre. Donc les purifications. Rôle suivant, tout ce qui est oracle, il va être consulté par le peuple pour connaître l'avis de Dieu sur un point donné. Et donc pour ça, il est outillé, il porte l'éphod, qui est une robe particulière, et puis il manie l'ourim et le toumim, qui sont des objets particuliers pour demander au Seigneur quelque chose, pour dire « Seigneur, qu'en penses-tu ?» Ils avaient un rôle de juge pour discerner des situations. Finalement, Salomon joue un rôle de prêtre auprès de ces deux femmes. En fait, il va trouver le bon discernement sur une situation donnée. Et donc c'est dit en cas d'adultère, hein, comme on le verra avec la femme adultère, c'est un rôle de prêtre, de juge qui doit s'exercer. Il était gardien de l'arche, qui représente les choses les plus sacrées en fait. C'est-à-dire que tout ce qui était de plus sacré, c'est le prêtre qui s'en occupait, et personne ne pouvait toucher ces choses sacrées sauf le prêtre. Il y a des rôles subsidiaires, hein, comme purifier les choses saintes, préparer les offrandes, les victimes, et donc il y a des gens qui partageaient le rôle de prêtre, les lévites notamment, mais qui n'était pas prêtre à proprement parler, mais qui s'approchait du sanctuaire, qui aidait les prêtres, comme on dirait les servants d'autel aujourd'hui, finalement. Mais qui jouait un rôle de prêtre d'une manière déléguée sur des points d'aide aux prêtres, quoi. Voilà. Dernière chose, ils baptisent des autels. Donc des autels, c'est la table sacrée où l'on prépare les offrandes, mais sachant qu'il y a plusieurs types d'autels, bien sûr. Et donc Dieu demande certaines choses à propos des autels, demande que... ça soit quelque chose qui soit plutôt reçu du Seigneur, que ce soit plutôt une pierre faite d'un seul bloc, et non pas quelque chose taillé au burin, signe du fait qu'on fabrique nous-mêmes quelque chose par nos petits bras. C'est vraiment, l'autel, c'est quelque chose de solide qu'on reçoit du Seigneur. Quelque chose, pour nous, ça va être quelque chose qu'on met en place pour faire rentrer le Seigneur avec force dans notre vie, en fait, l'autel, voilà. Un engagement dominicain, c'est un autel, par exemple, pour prendre un... Mmh. Voilà.
Ouais.
C'est quelque chose qui fait descendre la grâce avec force et qui fait qu'on se rappelle quand on considère ce truc-là, parce que ça va être une habitude qu'on prend... ça va
première
être,
partie,
se méfier du mauvais levain. Donc là, on est sur les textes, sur deux textes, où j'ai mis des parallèles. À mon avis, ça désigne le contact entre une personne donnée, ou un peuple donné, et une ou des personnes qui sont prêtres, c'est-à-dire qui ont un rôle d'enseignement et les rôles plus ou moins décrits là, qui ont une responsabilité par rapport à une communauté, donc des prêtres ou des parents ou des enseignants, vous voyez, qui vont sur les différentes choses et qui vont se faire piéger par certains pièges inhérents aux prêtres, en fait. Voilà, il y a des pièges types chez les prêtres, que pointe Jésus d'ailleurs. Et donc, quand on a été en contact avec une personne qui était comme ça et qui déviait sur certaines choses, parce qu'elle a peur, parce qu'elle n'ose pas, parce qu'elle est tiède, etc., eh bien, la personne qui a été en contact avec ce prêtre au sens large, il y a des choses particulières. Donc, on est sur le premier passage où Jésus, en se rendant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Premier constat, les évangélistes plantent le décor. Ils avaient oublié d'emmener du pain. Oui, pourquoi je dis que c'est en lien avec directement avec quelque chose qu'ils ont reçu de mauvais des pharisiens, c'est parce qu'en fait, les passages qui sont avant ces textes, c'était la première multiplication des pains, donc un moment fort, une première confrontation avec les pharisiens, sur l'interprétation de la loi, une deuxième multiplication des pains, et un deuxième dialogue avec les pharisiens, avec beaucoup d'incompréhension, parce qu'ils demandent un signe. D'accord ? Il y a eu ces quatre, donc, miracle des pains, confrontation avec les pharisiens, deuxième miracle des pains, deuxième confrontation avec les pharisiens. Et donc juste après, les disciples, les évangélistes disent, on manquait de pain en gros. Voilà, et donc Jésus dit, attention, ne gardez que le bon dans le discours des pharisiens. C'est ça qu'il dit en fait, Jésus dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et donc ensuite, l'évangéliste dit, ils discutaient entre eux en disant, c'est parce que nous n'avions pas pris de pain. C'est-à-dire que les disciples, ils se disent, Jésus nous dit, méfiez-vous du vin des pharisiens, c'est parce que, en fait, c'est parce qu'on était en train de parler du pain, quoi. Voilà. On a dit quelque chose en lien avec le pain, on parlait de ça, et donc Jésus, il dit ça à cause de ça. Et en fait, moi, de mon côté, je ne pense pas que c'était... Enfin, Jésus a saisi l'occasion, mais c'est une tendance qu'on a tous à faire un lien immédiat avec quelque chose, l'événement, on se dit, c'est une punition parce que j'ai fait ça. Alors que là, finalement, les disciples ont oublié d'emporter des pains, c'est un élément factuel en fait. On n'est pas obligé de faire le lien. Là, Jésus les prévient en lien plutôt, parce que Jésus peut-être avait le discernement des cœurs, et il voit qu'il s'est passé quelque chose dans le cœur des disciples au contact des pharisiens, qui a comme gommé les bonnes choses qu'ils auraient dû recevoir des deux moments où il y a eu des grands miracles avec les foules et où ils ont ramassé les paniers, vous voyez. Et Jésus les prévient. Et en fait, ils sont réprimandés après par Jésus. Vous ne saisissez pas, vous avez le cœur endurci, vous avez des yeux. Le « vous avez le cœur endurci », à mon avis, fait un parallèle avec Marc, puisque « vous avez le cœur endurci », c'est quand il parle du fait que les pharisiens n'ont pas compris le miracle du pain. C'est-à-dire que Jésus leur reproche qu'ils auraient dû recevoir en eux avec le miracle des pains. Ils auraient dû comprendre une grande vérité que Jésus leur montrait, qu'il y avait quelque chose de central dans le pain, quelque chose caché pour les sages et les petits. Et là, ils ont dans le cœur quelque chose qu'ils ont reçu des pharisiens, semble-t-il, et qui les empêche de voir ça. Et en plus, ils se sentent mis en défaut en disant c'est parce qu'on n'a pas pris de pain qu'il nous dit ça, Jésus. Donc ils voient les choses de manière très terre-à-terre, en lien avec un événement, en lien avec le décor qui avait été planté au départ, qui était on n'a pas pris assez de pain.
Je trouve ça
humoristique, quoi. Oui, c'est drôle. Oui. Et donc là, il y a une délicatesse du Seigneur, c'est que le Seigneur nous avertit.
Ils ont vraiment très peur de ne pas avoir leur public.
C'est ça.
C'est humain.
Ouais.
C'est humain.
Et en fait, le Seigneur est bon, c'est-à-dire qu'il prévient, il dit, j'ai un enseignant officiel qui finalement a transmis quelque chose de mauvais. Je préviens les personnes à travers leur conscience qui vont se dire, le prêtre par exemple, ou l'enseignant a dit quelque chose et là, je ne le sens pas, vous voyez. Et c'est un petit peu ce que fait Jésus en disant, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et au lieu de dire, Seigneur, merci de nous avoir prévenus, on va veiller sur notre cœur, ils disent, il est en train de nous reprocher, parce qu'on discutait de pain, quoi. Voilà. Bon. Jésus leur dit donc, n'êtes-vous pas en train de vous inquiéter non de garder votre âme pure, mais de n'avoir plus de pain matériel? Finalement, vous ne vous souciez pas de l'état de votre âme, alors que vous avez la capacité de descendre en vous-même pour voir est-ce que votre âme, il n'y a pas quelque chose qui cloche dans votre âme, en fait. Et notamment une angoisse, comme on va le voir. J'arrive au deuxième passage, Luc 12, 1 à 12. Donc là, c'était comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait. Jésus dit, méfiez-vous du levain des pharisiens, tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ne vantons pas 5 moineaux pour 2 sous, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant Dieu, et quand on vous traduira dans les synagogues. Voilà, enfin, si, le résumé, c'est ça. Alors, que se passe-t-il? Donc, ce passage de Saint-Luc, juste avant, il y a une discussion animée avec les pharisiens sur l'interprétation de la loi. Et donc, Jésus va commander à la manière juive, aux disciples, de se méfier d'abord de l'angoisse, parce que tout ce qui ressort là, pour moi, le dénominateur commun, c'est l'angoisse. Première chose, c'est tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est dans les ténèbres sera connu, etc. Le pharisien en question, l'homme qui a une capacité de prêtre, a l'angoisse que ses actes cachés ne soient dévoilés. Donc là, on est bien dans l'hypocrisie. Là, on est vraiment sur le mot hypocrisie. Donc, je fais des choses de manière cachée parce que j'ai conscience que c'est mauvais et donc faut que je me cache pour faire ces actes-là. Et donc, le remède que Jésus donne, c'est de penser au jugement où tout sera mis en lumière devant tout le monde, en fait. Voilà. D'accord ? Donc, l'angoisse que nos actes cachés ne soient découverts, le jugement de celui qui fait les choses de manière cachée parce qu'il se dit sinon ça va être découvert, son jugement à lui, c'est qu'un jour, ses actes mauvais seront mis en lumière devant tout le monde. Deuxième chose, le fait que le corps soit tué, donc ne craignez pas ceux qui tuent le corps, finalement le jugement de ça, c'est un meurtre éternel. Vous voyez ? C'est-à-dire que celui qui craint que son corps ne soit persécuté, eh ben son jugement, parce qu'il a été dans cette angoisse-là, il a agi par faiblesse, parce qu'il avait peur de que son corps soit persécuté, il avait peur de ce qui tuait le corps, eh bien son jugement à lui, c'est l'enfer finalement, c'est l'endroit par excellence où notre corps est tué perpétuellement, en fait. Et donc, le remède par rapport à ça, à mon sens, peut penser au martyr des sept frères, où il y a ces enfants qui disent, bah, moi, je sais que... Alors, il dit pas, je sais que mon libérateur est vivant, ça c'est Job, mais il dit, je préfère mourir par ta main, ô Dieu, et même si mon Dieu ne me protège pas, je ne renierai pas ma foi, parce que j'ai pas envie de souffrir éternellement. D'être tué éternellement. Et leur mère aussi, voilà.
Les Maccabées.
Troisième angoisse des pharisiens, l'angoisse de manquer de biens terrestres. Donc ça c'était, est-ce qu'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Et donc c'est une angoisse de manquer de biens terrestres. Le jugement de ça, le châtiment de ça, c'est que notre valeur se dévalue. Vous voyez, quand il dit, les chevaux de votre tête sont comptés, c'est une manière de dire, vos cheveux risquent de se dévaluer si vous perdez toute votre valeur en devenant un sel qui ne sale pas, quoi. Vous voyez ? Finalement, c'est ce qui va arriver à ces tombeaux sur lesquels on marche sans le voir. Voilà. Le jugement de ceux qui... Et donc, ça peut être une aide pour nous de dire, bah, si j'angoisse de manquer de biens terrestres parce que bah, je ne fais pas comme les oiseaux qui reçoivent tout de Dieu, je vais finir par... Que ma valeur à moi, devant Dieu, devienne nulle, quoi. Voilà. Comme, moi je pensais à Belshazzar en Daniel 7, où il y a une écriture sur le mur, tu as été compté, tu as été pesé, tu as été jugé, insignifiant. Et donc, moi Dieu, je décide qu'un autre va régner à ta place, parce que tu as perdu toute ta valeur. Voilà. On a l'angoisse que notre vie se complique si nous défendons celui que nous ne voyons pas. Hein, c'est celui quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Donc ça, c'est quand je ne prends pas la défense de Dieu, c'est parce que je ne le vois pas. Donc je me dis finalement, quelqu'un d'autre qui est en face de moi et qui me critique ou j'ai plus peur de lui que de Dieu que je ne vois pas. Eh bien, le châtiment, du coup, c'est ouais, c'est, en fait, ou la récompense de celui qui fait ça, finalement, si on le voit d'une manière positive, c'est que Dieu se déclare pour lui devant les anges, c'est-à-dire que Dieu demande aux anges de venir aider cette personne, finalement. Que Dieu, qu'il ne voit pas, et il a pris le gars qui a pris la défense de Dieu qu'il ne voit pas, Dieu demande aux anges qu'il ne voit pas de venir prendre sa défense. Et c'est pas seulement au ciel, c'est aussi sur la terre. Comme on voit avec Job, par exemple, Dieu demande à Job, enfin, provoque les anges à faire des choses, parce que Dieu tient tout dans sa main. Ou dans Zacharie 3, où il y a Dieu qui dit à Satan que l'Éternel te tente. Enfin, on voit bien, c'est Dieu qui donne des ordres aux anges. Voilà. Donc quand on prend la défense de Dieu qu'on ne voit pas, Dieu demande aux anges qu'on ne voit pas de prendre notre défense et de nous aider dans ce qu'on fait. On a l'angoisse de ne pas savoir se défendre face aux ennemis de Dieu. Donc ça, c'est quand on vous traduira devant les synagogues, les magistrats, les autorités. Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez. Donc, si on a l'angoisse de ne pas savoir se défendre, eh bien, il est dit, celui-là blasphème contre l'Esprit Saint, etc. Et en fait, la récompense pour ceux qui arrivent à dire, bah si, Seigneur, tu vas venir à mon aide, c'est que le défenseur va venir, vous voyez. Quand on angoisse de ne pas savoir se défendre, notre châtiment, c'est que le défenseur ne vient pas nous aider. Et quand on se dit, bah Dieu, tu vas m'aider à me défendre, et bien la récompense, vous voyez, c'est la manière juive, parce que c'est le même mot quasiment, ou c'est la même idée, la même image. Quand on a peur de quelque chose, le châtiment, c'est qu'il nous arrive la chose qu'on n'a pas faite finalement. Et donc au contact des pharisiens, il y a eu ces angoisses-là qui sont pointées par Jésus, c'est-à-dire, dans votre cœur, sont nées des angoisses particulières liées à un enseignement qui dévie. En fait, c'est des choses très particulières. Et que moi, j'ai vécu au contact de certaines personnes, finalement, qui auraient dû, en tant qu'enseignant bienveillant et avec un rôle de prêtre, on va dire ça comme ça, jouer un rôle. Et je me suis retrouvé avec dans le cœur des angoisses très fortes et que je ne comprenais pas. Et c'est aussi pour ça que ces textes m'attiraient d'une manière particulière. Et puis, on a aussi dans le... Alors, moi, je l'ai mis dans un autre... pas grave, c'est dans le 2a où Jésus dit que les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Moi, je le regroupe parce que on peut avoir l'angoisse que l'Esprit Saint ait quitté les enseignants qui sont au-dessus de nous. L'angoisse qui dévie finalement et de tout rejeter et d'être dans une attitude un peu marxiste en disant finalement ils se trompent, c'est le patronat, ils sont méchants, ils sont mauvais, tout ça. Pour nous consoler de cette angoisse-là, Jésus rappelle qu'ils enseignent dans la chair de Moïse, en fait. Enfin, finalement, c'est-à-dire que le Seigneur fait en sorte que la vérité triomphe in fine. Quoi. Quand un enseignant passe à côté de son rôle d'enseignant, le Seigneur va trouver un itinéraire bis pour nous enseigner quand même et nous montrer qu'il y a eu une erreur de fait et nous donner l'enseignement quand même. Donc, l'angoisse. Les différentes angoisses, finalement, que les pharisiens qui dévient transmettent aux personnes. Si je résume sur cette première partie, il y a toujours s'interroger sur ce qui nourrit. C'est-à-dire qu'on peut être trop terre à terre en disant « Oh là là, Dieu m'a peut-être dit quelque chose à travers tel signe, telle personne qui m'a dit, tel événement négatif qui m'arrive. » On peut avoir tendance à voir les choses de manière trop terre à terre. C'est parce que je n'ai pas acheté une baguette aujourd'hui. Et en fait, souvent, le Seigneur, il n'y a pas forcément un lien direct avec ce qui se passe. Enfin, le lien, c'est plutôt un lien avec ce qu'il y a dans notre cœur. Et le Seigneur essaie de nous prévenir. Parce que comme il est juste, eh ben, s'il y a eu une injustice à notre rencontre, parce que quelqu'un qui nous a dit quelque chose qui n'était pas juste, alors qu'il était dans une position d'enseignant, eh ben, le Seigneur va nous prévenir et va nous dire « Attention, tu as une angoisse particulière dans ton cœur, je t'aide à la mettre à jour pour pouvoir travailler dessus, me prier et que je vienne arracher cette angoisse de ton cœur. » Voilà. Et donc les 8 angoisses que j'ai nommées tout à l'heure, qui sont des angoisses transmises de manière particulière par des gens au moment où ils exercent leur rôle de prêtre.